Bonjour à tous. Aujourd'hui, pour Angers Sadiquois, nous nous rendons à la collégiale Saint-Martin, située 23 rue Saint-Martin. Plus vieille église d'Angers, c'est aussi l'un des monuments carolingiens les mieux conservés de France. Grâce à 20 ans de fouilles archéologiques et des travaux de restauration, il est aujourd'hui possible de retracer 2000 ans d'histoire. C'est ce à quoi nous allons nous intéresser aujourd'hui avec notre invitée Julie Minetto, responsable du pôle des publics de la collégiale. Bonjour Julie.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien.
Pour mieux comprendre l'évolution de ce lieu, je vous propose de voyager à travers différentes époques importantes, de sa construction achevée au 5e siècle, jusqu'à son ouverture au public en tant qu'espace culturel en 2006. Au 9e siècle, Fulknera et sa femme Hildegarde décident de rénover l'église Saint-Martin et de la transformer en collégiale. Aujourd'hui, ce lieu permet d'accueillir de nombreux événements culturels, tels que des expositions, des festivals et des ateliers. Mais quelle était sa première utilité ?
Alors du coup, depuis le 5e siècle, l'église Saint-Martin est au même emplacement et en fait a vécu plusieurs évolutions. On est sur la plus ancienne église d'Angers encore debout, donc l'une des premières églises finalement dans la ville, et elle prend le statut de collégiale donc à partir de Fulknera effectivement, et en fait ça change pas grand chose à son rôle, c'est juste que ce sont des chanoines qui s'en occupent à partir de ce moment là et les chanoines sont un type de religieux qui, lorsqu'ils se réunissent, donnent un collège de chanoines, d'où le nom collégiale. Donc on est sur une utilité vraiment religieuse jusqu'à la Révolution française, et pour le coup on est sur une collégiale dite royale, parce que historiquement sur Angers vous avez deux parties, le parti de l'évêque et puis le parti des laïcs ou des comtes, des seigneurs. Et donc nous, on est plutôt pro-compte ici.
Au fur et à mesure du temps, la collégiale a connu toutes sortes de transformations, mais la seconde a retenu mon attention. Au XIIe siècle, il y a eu un passage du style carolingien au style gothique, avec un allongement du cœur de la collégiale qui devient dès lors un superbe exemple du style gothique angevin dit plantagenet. En quoi ce changement a été impactant dans l'histoire de la collégiale ?
Alors effectivement, la collégiale, c'est toute une succession d'évolutions, et l'une des plus importantes a lieu au XIIe siècle. Elle est à l'initiative des chanoines, c'est-à-dire qu'à la base, on était sur un chœur carolingien, donc un petit chœur. Et en fait, cette phase de travaux a lieu en deux temps. Le premier temps, c'est une transformation du chœur existant, donc de la première partie, en un chœur gothique, puisque au XIIe siècle, le gothique, c'est le nouveau style à la mode. Donc il faut, pour montrer la puissance, la richesse, il faut qu'on soit à la mode, tout simplement. Donc on va transformer dans un premier temps la première partie du chœur, et puis dans un deuxième temps on va allonger ce chœur, et donc on va le faire en gothique, mais pas n'importe lequel, le gothique angevin ou dit plantagenet. C'est une particularité de la région, en fait c'est comme toutes les modes, hein, vous avez un style qui se développe dans toute la France, mais chaque région va essayer de se l'approprier d'une certaine manière, et à Angers, en Anjou plus particulièrement, ça se situe au niveau de la structure de la voûte. En fait vous avez une voûte gothique sur nos plafonds, et la particularité du gothique angevin ou plantagenet, c'est que la clé de voûte, donc le sommet de cette voûte, est plus haute que les côtés. Alors ça peut paraître un peu anecdotique comme ça, mais en fait ça change un peu la structure de votre voûte en entier, puisque qui dit une clé de voûte plus haute dit en fait plus de pression sur les murs extérieurs. Et donc il va falloir venir rattraper un petit peu cette pression et la compenser, donc on va mettre des contreforts sur les côtés, et vous avez un super exemple extrêmement bien lisible en fait dans la collégiale Saint-Martin, mais vous avez un exemple également par exemple à la cathédrale d'Angers.
À la fin de la Révolution française, après avoir été laissé à l'abandon, l'établissement cultuel a connu plusieurs utilités, dont celle d'être un magasin de bois ou encore un entrepôt de l'administration des tabacs. C'est la chanoine Pigné en 1902 qui réinvestit la partie orientale de la collégiale et entame par la suite des rénovations. Finalement, en 1986, à la suite de l'acquisition de ce lieu par le département de Maine-et-Loire, une longue campagne de restauration est lancée jusqu'à l'ouverture de la collégiale en 2006. La direction culturelle de l'Anjou décide alors de mettre en avant les richesses du territoire avec la première exposition à la collégiale Saint-Martin, Objets d'art, objets rares. Ma question est la suivante, en tant qu'ancien lieu de culte, est-ce que vous avez toujours un axe religieux au sein de la collégiale, ou est-ce exclusivement un espace dédié à la culture ?
Alors c'est exclusivement un espace dédié à la culture. En fait aujourd'hui la collégiale n'a plus du tout de relation avec le diocèse ou avec l'église avec un grand E. On est un service public, on est une propriété du département de Maine-et-Loire, et le département l'a vraiment restauré pour en faire un lieu culturel avec une programmation. Donc on n'accueille plus d'événements religieux, plus de messes. C'est vraiment un lieu qui sert à la diffusion culturelle. Alors bien sûr, on peut pas renier, on va dire, notre passé. Ça reste une église, ça reste un monument à la base religieux où toute l'histoire est liée finalement à la religion, bien évidemment, ne serait-ce que par les évolutions architecturales qu'elle traverse. Par contre, l'accent est mis vraiment sur son histoire, son architecture et vraiment son utilisation actuelle. Donc par exemple, quand vous assister à une visite de la collégiale, on va vraiment détailler toutes les évolutions architecturales, mais on va pas vous détailler les cultes, les messes et tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Quand vous faites un atelier par exemple avec les enfants, on va accentuer sur le côté Moyen-Âge, sur les décors, sur l'architecture, mais on va pas aller sur le côté, l'aspect vraiment religieux en tant que tel. Même les statues qui sont accueillies à l'intérieur sont des statues religieuses, pour un souci de cohérence, mais ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est bien évidemment l'histoire de l'art et l'évolution de la statuaire en Anjou. Donc aujourd'hui, on n'a plus de lien direct, on accueille vraiment plus de manifestations, que ce soit liées. Et c'est, même si on va pas aller sur la provocation à faire des expositions ou des événements qui iraient choquer pour choquer, c'est pas notre rôle non plus et c'est pas notre but. On tient compte du passé de la collégiale et on essaie de le mettre en valeur de différentes manières.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter peut-être sur l'histoire de la collégiale, des noms qu'on aurait oublié de citer ou des étapes importantes ?
Alors vraiment, ce qui est hyper intéressant avec ce site et ce qui est hyper riche, c'est que aujourd'hui vous avez pas mal de monuments religieux ou même de monuments historiques qui sont représentatifs d'un style, d'un courant, d'une époque. La particularité de la collégiale, c'est que vous avez vraiment 1600 ans d'histoire et d'architecture qui sont résumés dans le bâtiment. C'est-à-dire que on peut vous parler d'une évolution, d'une période, d'un siècle, on aura toujours quelque chose à vous montrer visuellement dans le bâtiment. Et ça en fait un outil formidable pour ce qui est de la médiation culturelle, et vraiment c'est une particularité du lieu, c'est qu'on n'a pas un lieu dans un style, on a vraiment plein de styles. On a des évolutions du 5e, 6e, 7e, 9e, 11e, 12e, 13e, 15e siècle, jusqu'à la restauration d'ailleurs contemporaine qui elle aussi apporte un peu sa pierre à l'édifice, on va dire. Et ça en fait une super salle de jeu aussi, parce que mine de rien, on est peut-être la plus ancienne église d'Angers encore debout, mais on est ouvert au public seulement depuis 18 ans, ce qui fait qu'en fait on a un lieu qui est extrêmement malléable. Même si, alors ça peut paraître paradoxal pour un monument historique, parce que évidemment on peut rien toucher entre guillemets, mais on est superbement équipé et du coup ça nous permet vraiment d'aller sur des terrains qui sont inattendus pour un lieu comme ça. Par exemple, on a déjà transformé la collégiale en forêt il y a quelques années, on a fait du street art, on fait du cirque, on fait des murder parties, on fait plein de choses à l'intérieur de ce lieu-là, et notre rôle c'est vraiment d'utiliser cet équipement pour le montrer le plus possible aux gens, attirer des gens qui seraient pas forcément rentrés dans une église, mais qui à l'occasion d'une murder party ou d'une expo sur la BD ou voilà, vont passer les portes. Et on n'a pas fini de relever ces challenges là parce que par exemple en septembre, la prochaine exposition, on va décider de plonger la collégiale sous l'eau.
Merci pour vos réponses, Julie. Je le rappelle, vous êtes responsable du pôle des publics de la collégiale Saint-Martin. Je vous souhaite une agréable journée.
Merci, vous aussi.
Merci. Si vous souhaitez en apprendre plus sur la programmation estivale de la collégiale, rendez-vous à la suite de ce podcast sur Angers ça dit quoi dans l'onglet podcast plus de notre site internet radio-g.fr.